Bonjour et bienvenue sur le podcast En Famille, le podcast de toutes les familles.
Je suis Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association e-enfance qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux.
Je suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice. De cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble, puisque nous avons coécrit 3 livres autour de cette thématique de la famille.
Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale. Et de nouvelles questions viennent à se poser.
Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter.
Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de Card, l'application d'argent de poche préférée des familles.
Épisode numéro 20, premières amours, quelle place pour les parents ?
Alors moi, j'ai jamais eu vraiment l'habitude de parler de mes relations amoureuses à mes parents parce que je considère que c'est mon intimité et que j'ai pas envie qu'ils soient au courant de ça. Donc en général, j'avais plutôt l'habitude d'en parler avec mes amis ou alors avec mes frères et sœurs, mais mes parents, ça a jamais vraiment fait partie de mon intimité.
Alors Béatrice, tu as écrit un livre qui s'appelle « Premiers émois, premières amours ». On parle dès le plus jeune âge d'amoureux ou d'amoureuse, mais à quel âge est-ce que ça commence, d'après toi, les histoires d'amour ?
Ben justement, ça dépend de quoi on parle, hein, parce que comme tu le dis, les enfants, dès la maternelle, ils ont des attirances et des émotions qu'ils vont nommer amour. Ils disent volontiers « j'ai un amoureux » ou « j'ai une amoureuse ». En réalité, cet élan affectif, plutôt un déplacement de l'Œdipe, c'est-à-dire que c'est un moment où l'enfant de 3 ans, 4 ans est en proie à ses émois œdipiens, où il est très attiré par... le parent du sexe opposé, inconsciemment bien sûr, et donc inconsciemment toujours, il va déplacer ses émois sur un enfant, en général de l'école, de sa classe, qui va lui plaire parce qu'il le trouve joli, gentil, il le parle de toutes les qualités. Donc oui, à cet âge-là, il y a déjà des émois. Ensuite, à l'école primaire, entre 7 et 10 ans, les enfants, à ce moment-là, ils sont plutôt assez genrés. Hein. Les garçons, ils jouent beaucoup avec les garçons. Les filles, elles jouent beaucoup avec les filles. Mais quand même, on assiste depuis déjà un petit moment à des comportements d'imitation de grands. Et notamment vers la fin du primaire, là, vers 9-10 ans, ils aiment bien dire, par exemple, « je suis en couple » ou « je sors avec Mathieu ». Ou voilà, c'est ma petite copine. En fait, pour eux, il s'agit à ce moment-là d'embrasser l'autre sur la bouche. C'est pas des relations très engageantes parce que de toutes les façons, le corps non pubère évacue la question de la rencontre sexuelle, ce qui ne sera pas le cas par la suite.
Donc on a compris que ça commençait vraiment au collège. Hein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le corps et dans la tête des garçons et des filles ?
Alors avec la puberté, bah, les garçons comme les filles, bah, ils se trouvent confrontés à une vie pulsionnelle intense qui les oblige à repenser les relations qu'ils ont avec les uns et les autres, à commencer par leurs parents. Donc bien sûr, pour eux, l'amitié est essentielle, hein, de plus en plus importante. Elle occupe une place de choix, peut-être la plus grande place, mais ils sont aussi très très préoccupés par leur vie sexuelle et amoureuse.
Tu vois beaucoup d'adolescents en consultation pour des raisons diverses et variées. Est-ce qu'ils te parlent spontanément de leurs histoires de cœur et qu'est-ce qu'ils t'en disent ?
Je dirais majoritairement que oui, qu'ils m'en parlent assez spontanément, surtout peut-être les filles. Mais c'est surtout quand il y a un problème, évidemment, hein. Une déception, une trahison, un vrai chagrin. Ce que je constate, c'est qu'ils en parlent beaucoup entre eux. Ils sont pas avares les uns et les autres de conseils, en stratégie, etc. Ils parlent beaucoup, dis-lui que, envoie ce message, etc., etc. Ça les occupe beaucoup, hein. Ça prend quand même beaucoup de place dans leurs échanges. Ils en parlent assez peu à leurs parents. Et c'est finalement pour eux, je pense, une façon de s'en éloigner puisque se négocie à ce moment-là le début du réaménagement des liens aux parents. Donc, ils en parlent assez peu. Le soutien et le regard du groupe est en revanche très, très, très important. C'est pour cela que ceux ou celles qui sont plus dépendants de ce regard sont en général plus concernés. C'est pour eux une façon d'exister. Plusieurs filles assez fragiles, par exemple, avec une sécurité intérieure pas très construites, qui cherchaient compulsivement à travers leur conquête à se réassurer.
Donc à montrer aux yeux des autres qu'elles existent. Hein, c'est
voilà,
ça, c'est...
à montrer aux yeux des autres qu'elles existent. C'est une façon de se sentir regardée par les autres et valorisée par les autres.
Parce qu'elles sont en couple.
Parce qu'elles sont en couple.
Alors, à partir de quand est-ce que ça prend une tournure plus engageante ?
Ben, c'est à partir de, je dirais, du lycée, hein, 15-16 ans, qu'il peut y avoir des rencontres durables. Je suis assez frappée par l'importance pour cette génération d'être en couple. Comme si bon nombre d'entre eux, qui évoluaient, je sais pas, dans une structure familiale instable, trouvaient là un moyen de se rassurer. Je me demande aussi si, pour certains, être en couple, ça ne leur permet pas de négocier plus facilement cet éloignement nécessaire aux figures parentales dont j'ai souvent parlé, parce que l'autre, à ce moment-là, ça serait une espèce d'étayage nécessaire pour être en sécurité. Au fond, il me semble que ça peut être un moyen, comme un soutien, au moment où il faut couper le cordon, de le faire en étant assuré qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas abandonné.
Alors justement, tu parles des parents. C'est pas toujours facile, hein, quand on est parent, de savoir comment se positionner dans ces cas-là. Quelle place ils peuvent avoir, les parents, dans la vie amoureuse de leurs enfants ?
Je pense que les parents ne sont pas indifférents à cette évolution, qu'ils ne sont pas idiots, donc ils le voient. Mais ils ont souvent du mal à se positionner. Alors, ça dépend. Hein. Certains, je pense, font le choix de l'ignorer totalement, peut-être par pudeur, peut-être par éducation. Ou encore, surtout, je crois, parce que pour eux, l'essentiel, c'est la scolarité et qu'ils ne veulent surtout pas que toutes ces petites histoires, comme ils pensent, empiètent sur ce terrain-là. Il y en a d'autres, au contraire, qui semblent assez fascinés et presque heureux, comme s'ils revivaient par enfant interposé leurs jeunes années, parfois en s'identifiant de façon un petit peu pernicieuse d'ailleurs, et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais surtout, j'en vois pas mal, notamment des mères de filles, je trouve, qui profitent de ce moment-là pour un espèce de rapprochement comme ça, une espèce de complicité que je trouve pas toujours très saine parce que c'est justement ça va à contre-courant de ce besoin de s'éloigner, de couper le cordon. Ces rapprochements, notamment mère-fille, qui créent une espèce de presque de lien un peu fusionnel et ces mères, elles sont au courant de tout, des changements, des revirements, elles ne sont pas à avoir de conseils. Donc elles sont très impliquées à ce moment-là.
Alors pourquoi est-ce que tu dis que ça peut être pernicieux ?
Parce qu'il me semble que ça sape ce travail de différenciation nécessaire. Pour se construire, l'adolescent, il a besoin de se différencier des figures parentales et des adultes. Pour se construire peu à peu une vie amoureuse, il a besoin d'avoir acquis une véritable autonomie et de ne pas être resté collé comme ça à ses parents. Il est capable de vivre ses expériences loin du regard parental, loin de l'acquiescement aussi parental. Donc il faut qu'ils soient capables de s'en détourner vraiment. Ça ne veut pas dire être dans le conflit, hein, pas du tout. Mais ça veut dire être tranquille avec l'idée que c'est quelque chose à soi qu'on vit pour soi.
Alors en même temps, quand on est parent d'adolescents, on a envie de les protéger hein, contre les maladies sexuellement transmissibles, une grossesse prématurée, des relations toxiques, etc. Comment on fait pour avoir la bonne distance ?
Bah, t'as tout à fait raison, ce sont des informations qui sont absolument indispensables. Hein. Mais je crois qu'il faut leur donner d'abord assez tôt, avant qu'ils aient une sexualité agie, et puis de façon comme des informations générales. Quoi. Il faut répondre aux questions de ces enfants quand ils sont petits. Par exemple, voilà comment on fait les bébés, les enfants très jeunes vont s'intéresser à ça. Et puis, pour ce qui est de la contraception, des maladies sexuellement transmissibles, on peut les aborder facilement parce que, par exemple, maintenant, on vaccine quand même beaucoup d'enfants, pas assez d'ailleurs, mais quand même beaucoup plus qu'avant. On vaccine contre le papillomavirus vers 12 ou 13 ans. Et donc, bah, il faut bien leur expliquer pourquoi. Donc, c'est une très, très bonne occasion de parler de tout ça. Et au collège, en principe, ils sont quand même censés avoir des informations. Ce sont des informations qui sont tout à fait importantes.
Alors, l'âge moyen du premier rapport sexuel est de 17 ans. Hein, ça n'a pas changé depuis très longtemps. Certains commencent leur vie sexuelle bien avant, d'autres bien après. Quel est, d'après toi, le bon âge pour proposer à ces enfants des préservatifs, un rendez-vous chez le gynécologue, etc. ?
Oui, alors l'âge de 17 ans, effectivement, ça n'a pas changé, mais je vois quand même des garçons et des filles plus jeunes hein, qui ont... alors, ils n'ont pas un rapport sexuel complet, mais enfin, ce qu'ils appellent les préliminaires, ça va quand même très loin. Donc, on est quand même dans des rapports sexuels, en réalité. Hein. Il n'y a pas de pénétration. Mais ils sont dans des échanges sexuels qui sont très poussés. Et à mon avis, quand même, avant 17 ans, hein, pour beaucoup, pas tous évidemment, hein, il ne faut surtout pas les enfermer dans des normes. Mais il me semble que c'est quand même, il y a des enfants de 13, 14, 15, enfin 14, 15 ans surtout qui sont déjà beaucoup dans ces pratiques. Il faut être subtil en tant que parent. Hein. Il faut suggérer. Dire par exemple à sa fille, tu n'oublies pas que le jour où tu en auras besoin, je peux te donner l'adresse d'une sage-femme ou d'une gynécologue qui pourra parler avec toi, qui te proposer toutes les questions, par exemple. Pour les préservatifs, par exemple, on peut dire, bah, tu sais que le jour où tu en as besoin, il y a toujours une boîte de préservatifs dans l'armoire à pharmacie. Des choses comme ça, plutôt que lui dire tu pars en camp de vacances, je t'ai mis une boîte de préservatif dans ta valise. Non, je trouve que c'est un peu violent finalement, c'est un peu intrusif quoi.
Ouais. Les petits copains et les petites copines de ces enfants, hein, est-ce qu'on les accueille à dormir chez soi, même si c'est parfois des relations très éphémères? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bah, je pense justement qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur d'être ringards en disant à leurs ados de 15, 16 ou 17 ans qu'ils ne veulent pas être aimants de leurs ébats. Mais moi, toujours dans cette même logique d'autonomie et de devenir vraiment adulte et de couper vraiment le cordon, ben, je pense que finalement, ils ont peut-être tort et que ça serait rendre service à leurs enfants de leur dire de se débrouiller à l'extérieur ou de venir chez eux quand il n'y a personne. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Après tout, ça les rend un peu inventifs et créatifs. En plus, ce sont quand même souvent des relations éphémères. Alors, ils vont peut-être pas voir défiler non plus tous les petits copains et copines. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la durée de la relation, de la fréquence à laquelle ils viennent. Enfin, il y a plein de paramètres qui changent. Hein. Il ne faut pas être rigide, mais je pense qu'il faut toujours avoir en tête cette nécessité de les laisser vivre leur vie à l'extérieur. Comme disait Annie Biraud, une psychanalyste que je respecte énormément, eh ben, il faut bien quitter l'enfance. Eh bien, vivre ses relations sexuelles en dehors de chez ses parents, eh ben, c'est bien quitter l'enfance.
Alors, les premières amours sont aussi souvent suivies des premiers chagrins d'amour. C'est des périodes qui sont très douloureuses hein, pour les adolescents ou les jeunes adultes, mais qui sont aussi souvent compliquées pour les parents. Quelle est la bonne distance dans ces cas-là?
C'est très douloureux, effectivement, de voir son enfant souffrir. Hein. En tant que parent, on peut être tout à fait désemparé. Je pense qu'il faut être présent parce que à ce moment-là, le garçon et la fille, il a besoin d'être entouré. Il faut ni banaliser, ni infantiliser, n'ignorer. Donc, il faut être une présence comme ça, bienveillante, rassurante, distrayante. C'est vrai que quand la rupture arrive, pour le garçon et la fille, c'est le monde qui s'écroule. Hein. Alors, en fonction de son histoire personnelle, ça va être surmonté plus ou moins facilement. S'il a des épreuves de séparation, une angoisse d'abandon un peu latente, déjà, c'est sûr que ça va faire plus de dégâts et qu'il va mettre plus de temps à le surmonter et que ça peut même nourrir chez certains des sentiments dépressifs plus ou moins sérieux. Mais heureusement, la plupart du temps, quand même, ce sont des souffrances qui sont surmontées. Et je pense que leurs amis sont les principaux recours. Hein. Ce sont les oreilles les plus recherchées. Et donc, je pense que leurs parents peuvent aussi, par exemple, leur conseiller d'inviter des copains à la maison, créer comme ça une ambiance autour d'eux amicale. Et puis, il faut qu'ils se rassurent parce qu'en principe, quand même, le chagrin va s'estomper normalement dans un délai assez raisonnable. Hein. D'ailleurs, c'est l'intensité de la souffrance et sa durée qui va signaler aux parents si ça mérite de s'en inquiéter ou pas.
Mmh. Merci Béatrice. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles.
Merci Marie.